religions du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. En ce dimanche 1er novembre, nous poursuivons notre émission sur la mort avec nos invités Damien Leguay et Jean-Philippe de Tonnac qui viennent de publier chez Albin Michel Les morts de notre vie. Ce sont 7 témoignages. Les témoignages de Juliette Binoche, Christian Bobin, Catherine Clément, Philippe Labreau, Daniel Mesguich, Edgar Morin et Amélie Nothomb sur les liens qu'ils entretiennent avec leur mort. Damien Leguay, je me tourne vers vous. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur la mort et notamment sur la crémation. Alors évidemment, en ce dimanche 1er novembre, nous allons parler des rites, hein, celui du cimetière déjà. Le cimetière, c'est le jour, bien sûr, de l'année où le plus de personnes, les familles viennent sur les tombes se recueillir et les fleurir.
Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'aujourd'hui, 1er novembre, c'est le moment de l'année qui est le moment où les Français se déplacent en masse. C'est l'événement social le plus important de l'année et dont les médias ne parlent pas. Il y a, entre aujourd'hui et demain, entre cette année et l'année prochaine, il y a 35 millions de Français qui vont se déplacer dans les cimetières. Il y a 25 millions de pots de fleurs qui seront déposés, qui sont en train d'être déposés sur les cimetières. Il y a là la manifestation énorme, manifeste, mais que tout le monde oublie et que personne ne veut vraiment voir, de cette religion première, ce culte premier des morts qui nous ont constitués et qui fait que les Français, malgré tout ce qu'on leur dit, malgré le rapport un peu compliqué qu'ils ont avec leur religion officielle, sont là, année après année, pour manifester ce lien privilégié qu'ils ont avec leur propre mort.
Ça ne décroît pas.
Et ça ne décroît pas d'année en année, ça change un tout petit peu, mais à peine. Et on est toujours avec cette présence massive, ce déplacement extraordinaire, ces populations énormes qui vont se recueillir sur les cimetières. Il faut le dire, parce que malheureusement, peu le disent, et que notre livre, ces témoignages de ces 7 personnes, vient à point pour mettre en évidence que les Français ont raison, parce qu'il se passe des choses avec ses propres morts, et que ses propres morts sont là, présents dans la vie de chacun des Français, comme le manifestent nos 7 interrogés.
Jean-Philippe de Tonnac.
Il y a là une espèce de paradoxe au moment où effectivement les Français se déplacent en masse pour rendre hommage à leurs morts allongés dans la terre. Ces mêmes Français font le choix de plus en plus incisif de la crémation, c'est-à-dire de la disparition de toute trace. Et car souvent, les urnes sont emmenées, même si la loi a essayé de freiner un petit peu le mouvement, mais les urnes sont emmenées dans les familles et les cendres dispersées, on ne sait plus trop où, et donc l'impossibilité de se recueillir autour des vestiges, des restes de celui qui est mort. Donc au moment où les Français disent qu'ils sont encore fidèles à leur mort et à ce corps qui se décompose dans la terre, qui se transforme, eh bien, ils sont 40% aujourd'hui à faire le choix de la crémation. 40%. Une génération plus tôt, c'était moins de 1%. Donc il y a là une révolution anthropologique qui est très peu analysée par la société actuelle, qui se fait en catimini, mais qui dit énormément de choses, du rapport que les individus ont avec eux-mêmes, du rapport que la société a avec sa mémoire, avec ses morts. Et c'est une question qui nous interroge, Damien et moi, évidemment, en profondeur, et qui mérite qu'on en parle, parce que je crois que ce choix de la crémation se fait par défaut. Beaucoup de gens ignorent absolument ce qui les attend, ne réfléchissent pas à la conséquence de ce qu'est un corps qui passe par le feu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une trace d'ADN dans ce corps, il n'y a plus de trace de celui qui a existé en une heure et demie.
En tous les cas, moi, ce que je retiens des 7 personnes interviewées, qu'ils soient croyants, agnostiques, athées, aucun ne désire passer par le crématorium. Ou en tous les cas, ils disent qu'ils ont souvenir épouvantable de certaines crémations, que c'est très traumatisant.
Nous l'avons tous.
Non, mais en même temps, je trouve que ce livre est intéressant, parce que justement, ces 7 témoins disent ce que personne ne dit vraiment, à savoir cette violence. Ils ont ressenti cette violence, et je peux citer ce que Juliette Binoche dit, je la cite, « Être brûlé pour moi n'est pas naturel. Pour quelle raison interviendrions-nous sur ce qui se passe naturellement? Il y a pour moi une évidence à rendre son corps au corps de la terre. » Cette évidence-là, qui est massivement celle des Français, malheureusement, n'est pas complètement perçu par eux, parce qu'ils sont dans une logique qui suppose qu'il faut en passer par là, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont de trop dans ce monde-là, parce qu'ils veulent se réduire à la portion congrue, parce qu'ils pensent que le monde de demain ne peut pas être le leur. Et ils pensent surtout que leur survivant ne sera pas là pour témoigner l'affection et la présence qu'ils doivent avoir. Et donc, j'espère que ce livre fera date de ce point de vue-là, parce que c'est la première fois que cette personnalité incontestable sur ces sujets-là, qui ne sont pas concertées entre elles, disent toutes qu'il y a, un, de la violence, deux, quelque chose qui n'est pas naturel, et que, trois, le processus du deuil est parallèle au processus de décomposition du corps. Et que quand on fait violence au corps, on fait violence au deuil, on fait violence aux survivants, on fait violence à la terre, on fait violence à tout ce qui est, entre guillemets, naturel dans la décomposition, dans l'oubli, dans le deuil.
Il y a même Amélie Nothomb avec son petit côté provocateur qui dit qu'en gros, sur sa tombe, elle aimerait souhaiter bon appétit aux vers qui vont la manger, c'est ça.
Les petits vers.
Ça, c'est les petits vers. Ça, c'est du Amélie Nothomb tout craché. Jean-Philippe de Tonnac.
Voilà, hein. Pour rebondir sur ce que disait Damien, je trouve qu'il y a là une contradiction que les Français devraient interroger. Ils font le choix de cette mort aseptisée qu'est la crémation, hein, qui est vraiment sans rituel, toute propre, toute rapide, on efface toutes les traces. Et en même temps, il suffit de les interroger. On en a interrogé 7 Français, mais je pense que beaucoup répondraient de la même façon. Leur cœur est plein des morts qu'ils ont perdus. Et comme le disait une autre fois Damien, le cœur est lent. Le cœur ne peut pas passer d'une situation à une autre. Il a besoin de ce temps de transformation. Donc il y a là un paradoxe entre la solution pour laquelle on opte, qui est se débarrasser le plus rapidement possible, et on se retrouve à la maison avec un deuil, avec une confrontation et avec probablement la culpabilité d'avoir choisi cette violence-là à l'endroit de celui qu'on aimait. Je pense que c'est ça que les modernes portent. Et vous savez, il y a une petite chose qui n'est pas dans le livre, mais que je vous rapporte. Le nombre de Français qui vont voir aujourd'hui des prêtres exorcistes, des désenvoûteurs, parce que le mort est resté en travers, parce que le deuil n'a pas été fait. Si on osait publier ces statistiques sur les démarches qui sont faites, alors on ne peut pas aller voir le psychanalyste, on ne peut pas aller voir le généraliste. Alors qui on va voir? On va voir un certain nombre de gens qui appartiennent à la religion catholique ou à la religion orthodoxe ou des gens qui ont des dons et qui effectuent la séparation que le deuil n'a pas pu permettre. Et vous savez, Antigone de Sophocle dit, c'est Antigone qui le dit, si vous ne prenez pas soin de vos morts, les morts vous empêchent de vivre. Eh bien, il y a beaucoup de nos contemporains qui symptomatisent l'impossibilité qu'ils ont eue de se séparer de leurs morts. C'est ça qu'on aimerait leur rappeler. C'est pas une question de choix. S'occuper de ses morts, c'est une vérité, comme le dit Catherine Clément, une vérité anthropologique. On vous demande pas de croire, on vous demande simplement d'aimer les gens qui vous ont mis au monde. C'est pour nous tous sur cette terre, un devoir qui ne se discute pas.
Toutes les personnes que vous avez interviewées, les 7, alors là aussi c'est un dénominateur commun, Jean-Philippe de Tonnac, Damien Le Guay, insistent sur les rites, tous, de tous les âges, les rites sont essentiels. Catherine Clément insiste beaucoup, elle qui est tout à fait athée. Catherine Clément, donc anthropologue.
Mais ce qui est frappant, c'est que toutes les personnes que nous avons interrogées ont un rapport distant, sauf peut-être Christian Bobin, mais ont un rapport distant avec la religion, les religions, disons, institutionnelles. Mais toutes insistent sur ces gestes, ces accompagnements, ces paroles, ces façons de mettre en rite. Parce qu'on a perdu le sens du rite. Les rites étaient partout présents dans nos sociétés, ils ne sont plus partout présents. On pense que ça appartient au grand envoûtement dont on veut s'échapper des religions. Alors c'est parfait, on dit très bien, on va vivre en moderne, vivre uniquement avec la raison et le rationalisme. Mais le monde n'est pas rationnel, le cœur n'est pas rationnel. Le cœur a ses raisons dans la durée que la raison qui est immédiate ne connaît pas.
C'est ce que dit d'ailleurs Edgar Morin. Lui, il est du côté de la raison, mais il laisse une porte ouverte.
Exactement.
Au reste. Hein.
Et donc, tous insistent sur la nécessité, quand on dit anthropologique, ça veut dire de cette religion primitive, de cette religion des morts, de cette manière de se lier avec eux, de se relier avec soi-même, avec les autres, de cette nécessité de poser des gestes, des paroles qui nous séparent, qui nous unissent et qui nous séparent. Les rites sont là pour à la fois mettre les morts du côté des morts et les vivants du côté des vivants, en établissant une frontière, une séparation, et pour éviter que les mauvais morts viennent vous tirer par les pieds. Le rite, c'est cela. Le rite, c'est ce qui instaure entre soi et soi-même une distance qui est à la fois affective et absolue.
Mais quand vous parlez des mauvais morts, Damien Le Guay, on a quand même le sentiment que c'est une sorte de retour à la religion primitive.
Mais oui, mais parce que nous ne sommes pas modernes. Nous ne sommes pas que modernes.
Voilà, voilà, c'est ça, on n'est pas que modernes.
Voilà, et alors, la modernité a cru qu'elle pouvait moderniser tout, y compris notre cœur. Mais effectivement, notre cœur est lent, notre mémoire est lente, et nous avons besoin de tous ceux qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas autonomes. C'est ça qu'il faut comprendre, et que la modernité ne cesse de nous rabâcher en pensant que nous sommes autonomes,
que nous sommes puissants,
ultra-puissants, que nous pouvons nous séparer de nous-mêmes, des autres, et que rien n'a d'importance. Nous comprenons tous, et nos sept invités le comprennent aussi, que nous avons besoin, mais c'est pas un besoin en plus, c'est pas esthétique, c'est que nous sommes constitués par tous ceux qui nous ont constitués. Et que nous avons emprunté tout ce qui nous constitue, qui vient des autres. Et que ce besoin-là d'être relié aux autres, il n'est pas superflu, accessoire, il est nécessaire à ce que nous sommes.
Il est anthropologique.
Il est anthropologique, voilà.
Et en tournant les pages de votre livre, Damien Le Guay, Jean-Philippe de Tonnac, là je tombe à nouveau sur le chapitre donc de cette rencontre avec Christian Bobin. Ouais. Et là je reviens justement au funérarium. Il écrit « Les funérariums sont le symptôme d'un monde privé de cœur qui ne sait plus décider. Ne voulant plus de l'absolu, mais n'ayant plus non plus le courage du néant, nous restons dans cet entre-deux qui est bien pire que le néant, dont on a moins de chances de sortir. Dans ces endroits-là, les signes de la vie sont très faibles, très lâches, très ambigus. On ne sait plus si on est dans une sorte de club maçonnique ou de chambre égyptienne, mais vidé de ses dieux et de ses ors. » C'est bien écrit, ça, quand même, d'ailleurs.
Vous avez choisi un passage qui nous touche beaucoup.
Oui, alors, Jean-Philippe de Tonnac, commentez-le.
Oui, je pense que c'est effectivement la mort est oubliée, la mort est laide, la mort est désinvestie, alors que, regardez, le soin qu'on prend pour accueillir le nouveau-né, dans les grandes traditions, on oppose toujours non pas la mort et la vie, mais la mort et la naissance. Donc, si la société moderne fait un effort considérable du côté de la naissance, elle se détourne des vieux, on le sait, et des morts. Et ça n'est juste pas possible. Mmh. Quelles que soient les bonnes raisons qu'on pourra aligner, rien ne permettra d'expliquer un comportement comme celui-là.
Ce que dit Christian Bobin est magnifique. Que faut-il faire pour accompagner nos morts ? Faut-il avoir des lieux vides, donc des lieux morts, donc ne rien leur donner ? Ou au contraire, comme il le dit, et comme le dit aussi Juliette Binoche, est-ce qu'il faut avoir un surcroît de vie, un surcroît d'accompagnement, des maisons et des lieux habités pour faire en sorte que ceux qui s'en vont, et ils s'en vont, et ils sont en train de partir, ils sont déjà partis, que ceux-là puissent quitter la maison commune, considérant que la maison est pleine de vie, de la vie, de l'amour, de la mémoire qui est la nôtre à l'égard de ces personnes-là. Et que si la maison est pleine, leur mort n'en sera que plus douce et notre deuil n'en sera que plus attentif à ces personnes qui ne sont plus là. Et c'est ça que dit Christian Bobin, c'est que soit effectivement on ajoute du vide à du vide, de la mort à de la mort, soit on est susceptible d'habiter ces espaces-là pour que ceux qui partent, partent le plus doucement possible, quand bien même la brutalité est là, et que ceux qui restent, restent le plus emplis possible de vie, alors même que la mort les a touchés dans le cœur même de leur âme.
Jean-Philippe de Tonnac.
Je pense qu'il faut toujours penser ce couple et ne pas les désolidariser, la mort et la vie. Je reprends un extrait de Bobin que vous aviez lu. Il dit « Vivre et mourir habitent la même maison. Oui. Ce sont deux sœurs qui sortent en même temps sur les routes. Si vous rencontrez l'une, vous rencontrez l'autre. » Si effectivement la mort n'est plus que la mort, et avec des professionnels de la mort, avec un désintérêt des vivants, effectivement, les choses vont s'assombrir et les choses se sont assombries. Au fond, on a accompagné les derniers jours des morts avec la vie. Au fond, vous savez, quand on veillait le mort à la maison, les gens dînaient, déjeunaient, disaient du mal du mort ou disaient du bien de lui. La vie l'encadrait, l'entourait jusqu'au dernier moment et après encore, puisque les rites existaient pour célébrer sa mémoire, etc. Aujourd'hui, effectivement, depuis le quatrième âge, les gens sont abandonnés à la mort. La vie a déserté ces régions. de l'existence de nos contemporains. Donc, il y a quelque chose qu'il faut reprendre. Ce sont des territoires, la République aime bien récupérer les territoires perdus.
Et là, il faut en créer un, manifestement, et un territoire sacré, presque.
Il faut récupérer ce territoire de toute urgence, parce que il en va de la santé des vivants, et c'est pas une posture que nous proposons. Hein. Il en va de la santé d'une société. On peut s'occuper des banlieues, mais la mort est une autre banlieue qu'on a abandonnée.
Oui, je crois que Jean-Philippe a absolument raison. On a considéré que les morts appartenaient à la périphérie la plus extérieure du monde des vivants. Appelons ça banlieue, appelons ça le bout du monde, là où il n'y a plus rien. Donc on a poussé autant que faire se peut les morts. Mais les vivants résistent, d'où la présence des vivants dans les cimetières aujourd'hui. Et donc vous parlez de Christian Bobin. Christian Bobin dit une chose magnifique. Quand il parle de son père, il dit « J'aime la vie, quand j'aime la vie, mon père est là ».
Ah oui.
Quand j'aime la vie, ça, mon père est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Quand j'aime la mort, mon père est là ». Non, pas du tout. Quand j'aime la vie, quand je vais bien et quand je suis plein de vie, à ce moment-là, sur ce terreau de vie et d'amour, la fleur de mon père peut naître.
Ce qui pourrait paraître paradoxal.
Mais non, justement.
Et non,
voilà,
et non.
Justement,
et c'est le contraire.
C'est que les morts aiment nous voir vivants. Et que c'est sur cette présence vivante et pleine de la vie qu'ils nous ont donnée que quelque chose peut naître. C'est ça ce que les modernes ne comprennent pas. Eux, ils considèrent que la mort va avec la mort, le vide avec le vide, et qu'il faut pousser tout ça le plus loin possible dans les banlieues, comme le dit Jean-Philippe, de nos cités. Non, c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait quelque chose, un territoire d'amour, un territoire plein de vie, sur lequel puisse renaître, apparaître, se déposer, venir se poser comme un papillon, la présence de nos morts pour nous féconder et pour entretenir avec eux un bon rapport, alors que sinon, le rapport sera mauvais.
Oui, il faut peut-être faire un petit rappel. La fondation de chaque sanctuaire dans la chrétienté n'a été rendue possible que parce qu'il y avait un fragment d'un homme saint, une relique. Donc, il y a un mort à l'endroit où se trouvent toutes les églises de ce monde chrétien. Donc, c'est ce mort et la sainteté de ce mort qui fait qu'on a essayé de déposer les morts au plus près de cette relique, au contact. Évidemment, ça pouvait être une relique du Christ, mais c'était une relique de ses plus proches, etc. Mmh. Et puis, le mouvement de la modernité et le déménagement des morts du cimetière des Innocents en est l'expression la plus retentissante, et c'est probablement l'entrée dans la modernité. On commence à éloigner les morts du centre névralgique de la cité des vivants. On commence à les mettre un petit peu en bordure de la cité, et puis dans les banlieues, et puis de plus en plus loin, et puis ils disparaissent. Donc le déménagement des morts jusqu'à 2 millions de cadavres du cimetière des Innocents qui était à la place des Halles, qui sont transportés aux catacombes aujourd'hui, on commence à les éloigner pour des questions d'insalubrité, mais c'est beaucoup plus que ça probablement. C'est que les morts commencent à gêner les vivants. On ne sait plus quoi faire de ces corps. On n'a plus suffisamment la foi dans ces corps promis à la résurrection pour les garder avec soi. Et donc l'histoire de la modernité, c'est l'évacuation des morts, mais au sens matériel du terme, c'est qu'ils sont de plus en plus loin. Et les cimetières sont tellement loin, c'est que il n'y a plus de place dans Paris, et que trouver un cimetière dans la banlieue, c'est compliqué, alors on décide de se faire incinérer.
Oui, aussi, d'ailleurs, il faut quand même le dire, Damien Le Guay, Jean-Philippe de Tonnac, des raisons économiques. Hein. C'est cher aussi d'être enterré.
Non. Ces raisons-là ont été avancées, si vous voulez. D'abord, ce n'est pas la raison que les Français avancent manifestement, parce que les Français, à 60%, disent que s'ils veulent la crémation, ils le veulent parce qu'ils ont le sentiment qu'ils seront de trop, soit dans le monde de façon générale, soit dans le cœur de leurs survivants.
Ou qu'ils n'ont pas envie d'être mangés par les vers aussi. Hein. Ça, c'est quand même, on l'entend souvent.
Il y a une raison écologique qui existe, mais parce que ils pensent qu'effectivement le monde de demain, que ce soit le monde des vivants ou le monde comme nature, ne les acceptera pas. Bon, mais la raison économique, elle est très faible. Elle vient à 10-15% dans les intentions, d'une part. Et que deuxièmement, maintenant, au regard de l'inflation des coûts, qui sont quand même relativement forts pour la partie des pompes funèbres, pour autant que vous ayez effectivement une sépulture, le coût, il est le même, que ça soit une inhumation ou une crémation.
C'est combien aujourd'hui, une inhumation?
Une inhumation, une crémation, ça vaut à peu près 3 500-4 000 euros, tout compris.
Et la crémation, c'est pareil.
Pareil.
C'est quand même moins cher, la crémation.
Non, c'est pareil, je vous assure. C'est la même chose parce que vous avez un cercueil. Qui dit crémation dit aussi le coût de cela. Et puis après, la seule chose, c'est le lieu, c'est l'endroit, c'est le cimetière. Voilà. Mais si cimetière il y a, si donc sépulture il y a, le coût, il est quasi le même. Donc c'est pas cette question-là qui est prioritaire. La question qui est prioritaire pour les Français, malheureusement, c'est qu'ils pensent, c'est ça qui est, par rapport à ce que disait Christian Bobin dont nous avons parlé, qu'ils sont d'une certaine façon déjà morts. Bien que vivants, ils sont déjà morts. Et que ceux qui seraient susceptibles de les accueillir plus tard, leur famille, donc de faire ce pèlerinage des vivants à l'égard des morts, ce qui se passe aujourd'hui, 1er novembre, eh ben ils ne le feront pas. Et que donc, c'est par manque de vie que les Français choisissent la crémation.
Ils se disent, de toute façon, la famille viendra pas, parce
exactement.
Que c'est fini, donc voilà. C'est pas la peine de se compliquer.
Voilà. La mort va avec la mort, alors que, jusqu'à présent, la vie allait avec la mort. Et il fallait cette cohabitation de la vie et de la mort pour rendre les morts vivants de bonne manière et rendre les vivants en colloque avec les morts de bonne manière.
C'est ce qui nous différencie de l'Afrique, par exemple.
Mais exactement.
Ah oui, évidemment. Oui, Jean-Philippe de
Tenac, oui. Et l'Église catholique accepte et tolère la crémation depuis 1963. À ce moment-là, on voit une montée tout à fait spectaculaire de la crémation. Mais pour moi, brûler quelqu'un, c'est toujours dans mon histoire occidentale le signe qu'on veut se débarrasser de lui. C'est la manifestation de la haine la plus grande. On brûle les juifs, on brûle les sorcières, on brûle les cathares.
Oui, alors c'est pas de la haine, c'est peut-être...
C'est la mise à néant. C'est la mise à néant. C'est quand même ça que le feu a voulu dire. On n'est pas des Indiens. On n'a pas des bûchers sur les bords du Gange. Mmh. Vous en conviendrez. Donc, ce qu'on a brûlé dans notre histoire, ces bûchers-là sont extrêmement douloureux dans l'histoire collective. Et que des gens, en l'espace d'une génération, fassent le choix de la crémation pour eux-mêmes ou pour leurs proches, sans mémoire, sans s'inscrire dans une cohérence collective, je trouve ça problématique qu'on en soit arrivé là.
Ce qui est problématique, et vous disiez un mot qui est important, l'Afrique. L'Afrique a une immense leçon à nous donner. Parce que nous sommes la seule civilisation qui considère que la cohabitation des vivants et morts ne doit pas se faire. Alors que tout le reste, par ailleurs, et en Afrique en particulier, eux sont absolument persuadés qu'il importe de tenir ensemble et les vivants et les morts, et de manifester le plus d'amour possible à l'égard des morts, pour que ceux-ci ne nous embêtent pas. Et quels sont ceux, on peut penser à un sociologue comme Louis-Vincent Thomas, qui, il y a déjà 30 ans, nous a mis en garde contre cette disparition à la fois des morts, à la fois des cimetières, à la fois cette montée de la crémation. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que lui a passé 20 ans en Afrique, et qu'il a vu ce qu'il en était de ce commerce, de ce tissage, de cette tapisserie qui se fait entre les vivants et les morts et qui rendent les vivants plus vivants encore parce que ils sont en permanence toujours dans cette offre supplémentaire d'amour à l'égard des morts.
On a beaucoup parlé d'Amélie Nothomb, de Christian Bobin. Il y a également le témoignage de Daniel Mesguich, comédien, metteur en scène, homme de théâtre, etc. C'est un homme, lui, qui est totalement angoissé par la mort. Il y pense tous les jours, il en parle beaucoup. Est-ce que c'est pour vous celui, effectivement, qui vous a semblé le plus anxieux, si je puis dire, par rapport à cette question?
J'ai beaucoup aimé ce témoignage parce qu'il n'est pas époustouflant, il est modeste et... Il témoigne de ce qui ne peut pas être dit aujourd'hui dans notre modernité, c'est que nous avons peur de mourir. Et il se dit cette chose tellement banale, un jour je ne serai plus et les autres seront, le monde continuera sans moi. Mais quel scandale! Pour un homme qui a brillé sur la scène, qui a eu le premier rôle, qu'on est venu applaudir, tout d'un coup, il ne sera plus là et d'autres prendront sa place sur la scène. C'est insupportable, mais c'est tellement humain de penser les choses comme ça. Donc son témoignage est plein de cette humanité-là. Et moi, je me souviens de ce moment avec lui, ce moment intense. Nous étions dans son salon bibliothèque et à un moment donné, parlant de ses parents, et il vient évidemment d'un milieu juif, mais son père était spirite. Son grand-père était spirite, sa mère s'était convertie au bouddhisme, donc une assez drôle de famille, mais il nous disait, en même temps, le judaïsme, je sais ce qu'il en est, regardez, il nous demande de nous retourner, et nous voyons effectivement tout un pan de sa bibliothèque consacré au judaïsme. Je vois un petit peu plus loin, juste derrière moi, deux boîtes qui ressemblent à des urnes, et j'ose poser la question de ce que sont ces boîtes, et il me dit, ce sont les urnes de ces animaux qu'il a fait brûler, et qui sont là, qui gardent avec lui. J'ai trouvé ça tellement beau.
Daniel Le Guay, qui vous a marqué?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est pas tellement ou l'un ou l'autre, c'est le fait que quand on parle de ces sujets-là avec des gens qui entendent de quoi il en est, tout de suite, il y a comme quelque chose qui fond. une glace qui fond à l'intérieur des personnes. Et si chacun de ces 7 personnages, chacun de ces personnes que nous avons rencontrées, un moment ou un autre, ont été à ce point émus, ont été au bord des larmes ou ont pleuré, c'est parce qu'il me semble que cet accès direct par la parole à ce cœur, ce foyer atomique de notre propre émotion, quand on atteint cela, en évoquant ses propres morts, toujours quelque chose en soi se dégèle. Et il me semble que le seul conseil qu'on pourrait donner à tous ceux qui aujourd'hui sont là en train d'aller vers leur propre mort dans les cimetières, c'est parlez-en. Faites en sorte que ce que vous ne voulez pas dire, parce que par pudeur, par gêne, par difficulté, vous le disiez à vos enfants, à vos conjoints, à ceux qui vous ont précédés, pour que eux sachent quelles sont vos dispositions, comment est-ce que vous concevez cela, et que vous puissiez considérer que c'est un sujet de conversation, le plus beau peut-être des sujets de conversation, qui suppose une vraie intimité, une vraie confiance. Donc, c'est bien d'apporter des fleurs aujourd'hui, faites-le, n'hésitez pas. Mais en même temps, apportez aussi aux vivants de la parole pour mettre du discours, des mots sur ce qui, sinon, malheureusement, restera gelé. Dégeler la parole, dégeler la mort qui est en vous, dégeler toutes ces dispositions que vous prenez ou que vous comptez prendre pour que les vivants soient associés et non pas exclus, soient amis et non pas étrangers de tout ce que vous allez faire ou de toutes les dispositions que vous prenez pour la fin de vie.
Merci Damien Le Guay. Donc je retiens, merci Jean-Philippe de Tonnac, je retiens votre message, des fleurs et des paroles.
Absolument.
Merci, donc je rappelle merci le titre de votre livre, Les morts de notre vie, et c'est publié chez Albin Michel. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.